les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Même quand on n'entend rien à ce que nous dit Jacques Lacan, on ne perd pas son temps à l'entendre le dire. Le timbre métallique de la voix, les soupirs qui semblent en dire long, le rythme et les accents d'une parole qui paraît n'appeler ni espérer aucune contradiction peuvent combler à eux seuls la curiosité de l'auditeur le moins averti des choses de la psychanalyse. D'autant qu'ici ou là, il tombera peut-être sur un mot, un trait d'humour ou une sentence énigmatique assénée sans faillir qui fera mouche et librement son chemin dans sa mémoire. Alors, initiés ou novices, ne manquons pas une occasion d'entendre Jacques Lacan ou même de le voir quand cela se présente, notamment dans le film de Benoît Jacquot et Jacques-Alain Miller, produit par l'ORTF en 1974. Lacan sans l'image, on le retrouve ici, en modulation de fréquence, dans un enregistrement de 1966, présenté par Christine Goémé et Jacques-Alain Miller en 2001, un siècle après sa naissance.
Pour le 100e anniversaire de sa naissance, nous allons cette semaine, dans les chemins de la connaissance, écouter Jacques Lacan, psychiatre et psychanalyste français, né en avril 1901, mort en septembre 1981. Jacques-Alain Miller, vous êtes psychanalyste et c'est à vous, son gendre, que Jacques Lacan a confié la publication de son œuvre, éditée par Le Seuil. Un nouveau volume est d'ailleurs sur le point de paraître le 13 avril, intitulé « Autres écrits », dans lequel figurent les textes que nous allons entendre tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, nous vous proposons de réécouter le petit discours à l'ORTF qui fut diffusé le 28 novembre 1966. Cette intervention de Jacques Lacan, qui répondait alors à une question posée par Georges Charbonnier, contient des notions qui se déploient dans toute son œuvre et notamment dans les extraits de radiophonie que nous entendrons à partir de demain matin et jusqu'à vendredi. Cette réponse de Lacan est passée sur les ondes quelques jours après la sortie des écrits, 15 novembre 1966, dans lesquels figure un des textes clés de la théorie lacanienne, le discours de Rome de 1953, intitulé « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » et sur lequel portait la question qui lui était posée. Rappelons que 3 ans auparavant, donc en 1963, avait eu lieu la rupture avec l'Association internationale de psychanalyse et qu'il avait fondé en 1964 son école, l'École freudienne de Paris. Dans cette intervention, Lacan réaffirme sa théorie fondée sur sa lecture de Freud et sur son expérience clinique. Il y indique également, Jacques-Alain Miller, des directions de travail.
Oui, ce que nous allons entendre dans un moment, c'est la lecture par Lacan d'un écrit de Lacan. Et on sait que lire Lacan n'est pas facile. Eh bien, écouter Lacan, lire Lacan ne l'est pas davantage. Donc, il faut s'y préparer. Il faut se mettre dans l'attitude qui convient, qui est une attitude d'attention, d'acuité de l'écoute, et en quelque sorte, il ne faut pas rêvasser. Alors, il y a d'abord la voix de Lacan, qui est une voix travaillée, et même affectée, et qui est pour commencer une voix de fausset. Il y a le texte, très écrit, d'un seul tenant, avec une argumentation serrée, avec des articulations soulignées par des cadences. Alors, qui parle ? Ben, le plus simple, c'est de dire que c'est un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui, depuis 15 ans, a changé le vocabulaire de la psychanalyse, qui a déplacé les fondements de la psychanalyse et qui en a bouleversé la pratique habituelle. Et il parle de la psychanalyse comme jamais on en a parlé. Il fracasse des idoles, il démonte les idéaux dont on l'a affublé, l'idéal de la maturité, l'idéal de l'harmonie, l'idéal de la bonne mesure à garder, l'idéal de la sagesse. Tandis que Lacan, lui, parle de subversion du sujet. L'expression veut dire que depuis Freud, le sujet n'est pas maître chez lui, qu'il est dépossédé de son bien le plus précieux, de son identité, de sa conscience de soi. Mais évidemment, en 1966, le mot de subversion a d'autres échos aussi, qui retentissent dans la jeunesse étudiante. Et je peux vous dire comment je voyais Lacan en 1966. Je le voyais comme un David aux prises avec le Goliath de l'establishment psychanalytique, comme un Hercule nettoyant les écuries d'Augias. Et c'est aussi Jésus chassant les marchands du temple. Et c'est celui qui annonçait une révolution dans la psychanalyse, mais conduite au nom de Freud. Alors nous allons l'entendre à un moment tournant de sa vie. Et disons que c'est celui où il a cessé d'être discret. Parce que jusqu'alors, il ne s'était presque jamais adressé au public. Il se réservait à sa pratique clinique, à la formation des psychanalystes, tandis que là, comme vous l'avez rappelé, le recueil de ses écrits vient juste de paraître et il sollicite instamment l'attention du public. 1966, c'est aussi l'année où le structuralisme émerge dans les médias et devient à la mode. Les noms de Roland Barthes, de Michel Foucault sont alors associés à ceux de Lévi-Strauss et de Lacan, et c'est l'heure aussi d'un pamphlet antistructuraliste, « La cabale des dévots », que mentionne le texte de Lacan. Alors qu'est-ce que dit Lacan? Il dit des choses très précises. Que l'homme naît immergé dans un bain de langage, qu'il est d'emblée traumatisé par tout ce qui s'est dit de lui et autour de lui, que l'inconscient n'est pas une donnée de nature, mais le résultat de ce traumatisme proprement linguistique, que ce traumatisme détraque l'animal en l'homme, qu'il fait de lui un sujet, un être de désir et de symptômes, un être qui peut bien aspirer à la mesure, mais qui est voué à l'excès et au manque, un être dont le corps lui-même est affecté par le langage. Ce corps dont la forme le fascine, mais qu'il se représente morcelé, découpé, cisaillé. Et c'est aussi un être dont la jouissance n'est jamais en harmonie avec son corps, ni avec le corps de l'autre, ni avec le désir. Alors cet être traumatisé n'est pas susceptible d'une normalisation. On ne peut le rendre conforme qu'au détriment de sa vérité. Et la vérité revient sous la forme de symptômes. Alors Lacan n'a que des moqueries pour ceux qui conçoivent la psychanalyse comme une entreprise de normalisation. C'est pour lui une entreprise de révélation et de réalisation de la singularité de chacun. C'est une expérience de parole qui fait table rase des préjugés, qui n'opère qu'à la condition que les deux partenaires acceptent de se laisser surprendre, de telle sorte que pour Lacan, aucune séance analytique n'a de durée prédéterminée. Mais je crois qu'aujourd'hui encore, on peut ressentir la fraîcheur que Lacan redonne à la psychanalyse, quand il explique par exemple que les rêves se traduisent comme une version au collège grâce à un dictionnaire que chacun a dans sa tête. Faites attention qu'il ne dit pas que ce dictionnaire est l'inconscient. Le dictionnaire des rêves, c'est l'association libre, c'est-à-dire le discours. Mais même le blabla peu cohérent et pas forcément inspiré auquel le patient est invité à s'adonner. Alors, il s'agit alors pour l'analyse de repérer un réseau où se répètent ou se recroisent les phrases, les mots et même les sons. Donc il y a la fraîcheur, j'espère qu'on l'entendra. Il y a aussi la violence. Que la parole soit au centre de la psychanalyse, je crois que c'est maintenant une évidence admise. Mais c'était alors une évidence méconnue, parce qu'on voyait dans le langage un simple moyen d'expression, on négligeait sa puissance matérielle. Quand on veut rendre manifeste une évidence méconnue, on ne peut pas faire autrement que de s'en prendre à tout ce qu'il a fait méconnaître, et c'est pourquoi Lacan multiplie les sarcasmes, il tape sur la religion, il tape sur l'évolutionnisme, il tape sur l'existentialisme, et surtout sur les psychanalystes qui ne le suivent pas. C'est un texte de combat, et c'est même, si je puis dire, la psychanalyse au marteau. Ce qui échappe à ce jeu de massacre, c'est la science. Parce que d'un côté, ce que Freud a découvert, pour Lacan, oblige à réviser toutes les catégories de la pensée commune. Il y a l'inconscient, il y a en l'homme un autre qui opère et qui pense à son insu, qui dirige sa conduite, et si c'est vrai, alors il faut redéfinir ce qu'est la pensée, ce qu'est la conscience, ce qu'est l'homme lui-même. Donc, il annonce un chambardement général des catégories de la pensée. Mais d'un autre côté, Lacan n'installe pas la psychanalyse dans un no man's land. Pour lui, la psychanalyse appartient pleinement à l'âge de la science. Ce qu'elles ont de commun, c'est l'absence de préjugés initiaux, la table rase, la confiance faite à un fonctionnement automatique, à l'aveugle, à l'inscription pure et simple des mots, des chiffres, des traces, bref, à l'enregistrement des signifiants purs dans leur matérialité, si je puis dire. Et c'est ainsi que Lacan a le culot de revendiquer tout simplement pour l'expérience analytique une objectivité qui n'est pas indigne de l'expérience scientifique. Et c'est pourquoi il dira à son séminaire que le sujet de la psychanalyse, c'est le sujet de la science. Alors, il y a un dernier point que je voudrais souligner, c'est le réalisme de Lacan. Un réalisme décapant. Parce qu'on croit qu'il est abstrait parce qu'il y a sa rhétorique, le raffinement du style, les allusions multiples, les références à tous les domaines de la culture. Mais pas du tout. Ce qu'il dit n'est pas du tout abstrait, ni idéaliste, ni oraculaire. Et on le voit bien quand il parle de la sexualité, des relations sexuelles. Lacan balaie tous les mythes, les superstitions, les utopies qui voilent les faits. Le fait biologique que le spermatozoïde et l'ovule sont complémentaires, sont faits l'un pour l'autre, n'implique pas du tout que l'homme et la femme le soient. Il n'y a pas d'harmonie préétablie entre les sexes. Le fait est que entre les sexes, ça ne va pas et que la sexualité est toujours un fait discordant chez l'animal parlant. Et au fond, tout le monde le sait. Mais il a fallu la psychanalyse et il a fallu Lacan pour le formuler en clair et pour tenter au moins d'en rendre compte de façon rationnelle.
Jacques Lacan, 28 novembre 1966.
Parole et langage, oui, sont, avec ce discours, au centre de ces écrits qui sont ceux d'un psychanalyste. J'ai été appelé par les conditions difficiles qu'a rencontré le développement de cette pratique en France à y prendre une position qui est une position d'enseignement. Cette position part des faits, et pour cela, il a fallu qu'elle y retourne. Des faits, cela veut dire des faits examinés pour voir en quoi ils consistent. Autrement dit, des faits scientifiquement établis. Même sans le savoir, tout le monde tient maintenant pour des faits ce qui ne fut longtemps que rebuts purs et simples, ce qu'on appelait les actes manqués. De même, pour ce qui s'était réduit à la portée d'objets curieux qu'un amateur faisait valoir d'un coup de revers de manche, les rêves. Remarquons que tout le monde sait le nom de Freud grâce à qui notre idée des choses s'est ainsi complétée. On soupçonne encore que, pour le mot d'esprit, il a apporté quelque chose qui ne permet plus d'en considérer l'effet de rire comme futile. Que le mot d'esprit est devenu un fait digne d'une considération autre que purement philosophique. Sur quoi ce changement repose-t-il? Qu'on aille y voir dans les textes originaux, dans les textes de Freud lui-même, non pas dans ceux des ombres heureuses qui se sont mises à prophétiser de sa bonne nouvelle, ni des exploitants qui leur ont succédé. On verra que ces faits dans Freud sont établis comme des faits de langage. Les rêves s'y traduisent comme une version au collège, grâce à un dictionnaire que chacun a dans sa tête et qui s'appelle association libre. Association libre de quoi? De ce qu'il lui vient à raconter. Mais ce ne sont pas les choses ici qui à Freud donnent le sens, mais les points de concours qui se dégagent d'une sorte de décalque dont il rapplique le mot sur le mot, la phrase sur la phrase, le verbal sur le verbal, ceci jusqu'au calembour. Les obtus disent maintenant qu'il s'agit là du préconscient. C'est justement dans la fonction de ce qui le tourmente, ce préconscient, de ce qui fait sa sensation à lui, Freud le formule en ces termes, que le préconscient rencontre des mots dont il n'a pas le contrôle. D'où lui viennent-ils ? Précisément de l'inconscient, où il gîte comme refoulé. Que ces mots ne soient pas à la dérive, c'est-à-dire que leur dérive ne relève que d'une loi des mots, d'une logique radicale que je tente d'établir, voilà qui va à une révision totale de tout ce qui a pu se penser jusqu'ici de la pensée. Disons que la pensée ne peut plus être le sujet au sens légué par la philosophie, à savoir la fonction de la conscience telle qu'elle devient dans l'idéologie évolutionniste aussi bien que dans l'idéalisme existentialiste, en deux sens d'ailleurs impossibles à conjoindre, la raison d'être du monde. Il n'y a rien à faire contre l'évolutionnisme. L'homme continuera à se croire la fleur de la création, c'est la croyance fondamentale de ce qui le constitue comme être religieux. De même qu'il fallait que la fièvre existentialiste couvrît un moment, celui de l'après-dernière guerre, où la conscience de tous et de chacun n'avait pas très bonne mine. Toute une jeunesse a supporté son loisir forcé de se sentir fortement en situation. C'est une forme de la prière. La cabale des dévots n'est pas là où la dénoncent ceux qui parlent d'humeur, c'est-à-dire à tort et à travers. Tout ceci n'a aucune raison d'arrêter le mouvement de la science qui consiste toujours à inaugurer un calcul d'où soit éliminé tout préjugé au départ. Après cela, le savant n'a plus qu'à suivre. Son inconscient ne laissera pas le calcul s'arrêter, justement du fait que les présupposés du calcul auront laissé en blanc la place où il pourra jouer. On peut s'étonner ici que je semble méconnaître la part de l'expérience au sens physique dont ce mot résonne. Mais c'est justement que je ne la méconnais pas. L'expérience de l'inconscient, prise au niveau où je l'installe, ne se distingue pas de l'expérience physique. Elle est aussi extérieure au sujet. Celui-ci étant pris au sens traditionnel. Je la désigne au lieu de l'autre, avec un grand A. L'inconscient est le discours de l'autre, est ma formule. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu instinct, ni cœur de l'être, mais seulement son habitat. Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Mais justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique, que l'homme croit, fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Ceci par l'intermédiaire du désir. dire, où ses parents l'accueillent comme un objet, qu'il le veuille ou pas, privilégié. Ce que le moindre éveil clinique permet d'apercevoir dans ses conséquences, incalculable jusqu'ici, mais sensible dans tous les êtres. Et ce qu'ignore les patouillages du religieux comme du médecin concernant la régulation des naissances. Or, le désir n'est pas la passion inutile où se formule l'impuissance à le penser des théoriciens de l'intention existentielle. Le désir est proprement la passion du signifiant, c'est-à-dire l'effet du signifiant sur l'animal qu'il marque et dont la pratique du langage fait surgir un sujet. Un sujet non pas simplement décentré, mais voué à ne se soutenir que d'un signifiant qui se répète, c'est-à-dire comme divisé. D'où cette autre formule. Le désir de l'homme, si l'on peut dire, c'est le désir de l'autre. En l'autre est la cause du désir d'où l'homme choit comme reste. Tout ceci s'énonce en une suite scientifique. À partir du moment où il y a une science du langage aussi fondée et aussi sûre que la physique, ce qui est le cas au point où en est la linguistique, c'est le nom de cette science, d'être considérée partout maintenant pour ce qui est du champ humain comme une science pilote. On a entendu qu'à « humain » et à « homme » nous mettons des guillemets. Pour autant que, dans ce que représentent ces termes, est déjà présent l'effet du langage et qu'ils doivent donc rester en suspens tant que la science nécessitée par l'effet de l'inconscient ne sera pas plus assurée dans sa méthode et ses principes. Ainsi, le fondement de l'histoire marxiste, à savoir l'aliénation que la production en tant que tel introduit dans le sujet, trouve-t-il ici un supplément qui n'est pas moins matérialiste, au sens où nulle pure et simple intentionnalité, nulle plus ou moins bonne intention, ne peut, des effets de l'inconscient, surmonter les tours. Ces propos indique seulement une direction de travail qui ne concerne que ceux-là qui peuvent y fonctionner. C'est bien pourquoi nous n'avons pas cru devoir rassembler nos écrits pour un plus vaste public que celui auquel ils s'adressaient, à savoir les psychanalystes, jusqu'à maintenant. Soit avant que parmi ceux-ci se fût opérée la scission, même si pour beaucoup d'entre eux elle n'est pas encore claire, par où certains se décident enfin à reconnaître dans tout ce que Freud a apporté de fulgurant en psychologie, l'effet de cisaille que le langage apporte dans les fonctions de l'animal qui parle. Partout cet étagement de structures que j'ai décrites sous leur nom le plus commun, car elles s'appellent la demande et le désir en tant qu'elles remanient radicalement le besoin. Ainsi proprement se conçoit la succession de ces phases diversement interférentes que Freud a isolées comme pulsions. Ainsi peut être correctement mené leur maniement dans la pratique psychanalytique. Que Freud montre que ces effets de cisaillage sont majeurs dans ce qu'on doit appeler la pratique sexuelle de l'être parlant. Ceci n'implique aucune découverte concernant la biologie du sexe. Et tous ceux qui ont fait faire quelques pas à ce chapitre de la biologie le plus difficile rient des bafouillages auxquels la psychanalyse jusqu'à ce jour donne crédit dans le public. Une logomachie qui traite des rapports entre l'homme et la femme à partir d'une harmonie analogique qui s'originerait de ceux du spermatozoïde et de l'ovule paraît simplement grotesque à ceux qui savent tout ce qui s'étage de fonctions complexes et de questions irrésolues entre ces deux niveaux d'une polarité, la polarité du sexe dans le vivant, qui représente en elle-même peut-être l'échec du langage. Une telle psychanalyse met la notion la plus confuse d'une maturation instinctuelle au service d'une obscure prêcherie sur le don qui impose ses effets aux patients par la suggestion la plus grossière, celle qui résulte de ce consentement confus qui prend ici nom de morale. La seule chose qui reste sans explication dans cet obscurantisme sans précédent, c'est comment les effets de la régression, dite également instinctuelle, effets qui marquent dans le fait le progrès du traitement, auraient pour résultat cette prétendue maturation. Les choses apparaissent sous un tout autre aspect chez moi, où l'on dit qu'il s'agit de révéler la structure du désir. Et ceci en tant que justement le sexualise, l'impuissance du langage à rendre raison du sexe. Les choses sont aussi plus honnêtement posées. Quand on ne promet pas du même élan la levée de telle interdiction inconsciente entravant la pratique sexuelle et la solution du monde de problèmes que soulève le rapport d'un homme et d'une femme dans le moindre conjongo. Ce que je dis là, tout le monde le sait, mais chacun ne s'en berce que plus aisément d'un raccommodage des superstitions les plus éculées, on n'y peut rien, et le mauvais usage de toute vérité est son écueil le plus ordinaire. Mon livre n'en fait état qu'incidemment. Mes écrits rassemblent les bases de la structure dans une science qui est à construire. Et structure veut dire langage, pour autant que le langage, comme réalité, fournit ici les fondements. Le structuralisme durera ce que durent les roses, les symbolismes et les parnasses, une saison littéraire, ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne sera pas plus féconde. La structure, elle, n'est pas prête passée, parce qu'elle s'inscrit dans le réel, ou plutôt qu'elle nous donne une chance de donner un sens à ce mot de réel au-delà du réalisme, qui, socialiste ou non, n'est toujours qu'un effet de discours. Si je maintiens le terme de sujet pour ce que construit cette structure, c'est pour que ne reste aucune ambiguïté sur ce qu'il s'agit d'abolir et qu'il s'abolisse au point que son nom soit réaffecté à ce qui le remplace. Et je n'aurais pas encore publié ce recueil de mes écrits si ce qui s'y aimait, et spécialement depuis 15 ans, d'être reçu par moi du lieu de l'autre où s'inscrit le discours de ceux que j'écoute, et dans les termes où chaque psychanalyste reconnaît ceux-là même que chaque semaine lui fournit mon séminaire, n'avait fini par courir tout seul hors du champ où on peut le contrôler. Malgré moi, je dois le dire, mais non sans quelque raison, puisqu'en cet enseignement se joue le sort qu'à tous réserve l'avenir de la science, laquelle court, elle aussi, et bien en avant de la conscience que nous avons de ses progrès. Il me fallait, par ces écrits, mettre une barrière aux convoitises maintenant en route, des faussaires toujours de service sous la bannière de l'esprit.
Écoutez Lacan avec Jacques-Alain Miller, Archives INA Yves Buyi, Émilie Trazente, groupe de réalisation, Marcel Lebras, Bruno Roncière, Christophe Loukachevski, Xavier Carrère, Catherine Prin-Legal, Christine Goémé.
C'était le premier des cinq volets de « À l'écoute » de Jacques Lacan, proposé par Christine Goémé, ce jour-là avec Jacques-Alain Miller. Première diffusion, le 2 avril 2001, sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.